Nous avons besoin de la parole, Seigneur. Tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons été créés, Seigneur, pour toi. Nous avons été créés pour être en interaction, en communion avec toi. Tu es la parole, Seigneur. Assurément, il y a quelque chose en nous, Seigneur, qui aime cette parole et qui prend plaisir. Alors nous voulons prendre plaisir, Seigneur, à ta parole. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, vraiment de tout notre cœur, nous laisser façonner par ta parole. Seigneur, nous sommes destinés à être comme ton Fils et nous avons besoin de toi, Seigneur, aujourd'hui plus que jamais. Alors que ces instants soient bénis et que chacun ici soit béni, et que l'honneur et la gloire te reviennent à toi qui es parmi nous ce matin. Au nom de celui qui était, au nom de celui qui est, au nom de celui qui revient bientôt, Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous te confions ces instants. Alors parle à tes serviteurs, écoute et instruis ton peuple par ton esprit en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous pouvons tous dire Amen.
Amen.
Amen, que le Seigneur vous bénisse. Que sa paix soit sur chacun de vous.
Amen.
Alors, sans plus tarder, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous sommes en train de partager sur rester dans les limites de Dieu. Et je vous ai dit que on ne peut pas marcher avec Dieu comme on veut. Marcher avec Dieu implique comprendre que ce Dieu-là, il a des exigences. Et que si nous ne comprenons pas les exigences, nous ne pourrons pas aller loin avec le Seigneur. Et donc, notre Seigneur a fixé des limites, a fixé un cadre dans lequel il invite son peuple à rester pour pouvoir bénéficier de sa faveur, de sa protection, de ses bénédictions. Et nous avons vu que lorsque nous sortons de ce cadre-là, Dieu n'est plus avec nous. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Sans l'alliance, sans le cadre, vous aurez beau prier, intercéder, aller d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Si nous ne respectons pas les cadres de Dieu, il n'y a rien qui va se faire. Parce que l'homme de Dieu n'est pas plus grand que Dieu. L'homme de Dieu n'est qu'un instrument soumis à, justement, aux limites de Dieu. Donc nous avons vu la dernière fois qu'est-ce qui nous fait sortir des limites de Dieu. Parce qu'on a vu l'importance de rester dans les limites de Dieu et nous avons commencé par voir quelles sont les choses qui nous font sortir des limites de Dieu. Et la première des choses que nous avons vues à travers l'histoire d'Adam et Ève, c'était le mensonge du diable. Lorsque nous croyons au mensonge du diable, lorsque Satan a réussi à nous faire accepter un mensonge à ce moment-là, mais par l'acceptation de ce mensonge-là, mais nous allons sortir des limites de Dieu comme Ève qui a cru au mensonge. Et en croyant au mensonge de Satan, elle est sortie du cadre que Dieu avait fixé et ce qui est arrivé est arrivé. Et nous avons parlé également de céder à la tentation parce que qu'on le veuille ou non, nous vivons toujours dans un monde où il y aura la tentation. La tentation sera toujours là. Le problème n'est pas dans la tentation, le problème c'est notre attitude, notre réaction face à la tentation. On cède ou on ne cède pas. Et lorsque nous cédons à la tentation, ben nous sortons du cadre que Dieu a fixé. Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur te dira, tu n'étais pas obligé de faire. C'est vrai que tu étais oppressé, c'est vrai que tu étais dans des pressions, mais tu n'étais pas obligé de céder. Et lorsque tu cèdes à la tentation, ben tu sors de Dieu. Et la troisième chose qu'on a vue le dimanche passé, c'était s'attacher à la chair, céder au désir de la chair. On avait pris l'histoire de Samson et Dalila. Que le choix que Samson a fait de s'attacher à Dalila, qui représente la chair, ça lui a coûté. Ça lui a coûté que Dieu s'est retiré de lui. Dieu s'est retiré de Samson. Et quand Dieu se retire de Samson, il devient vulnérable. Quand Dieu se retire de Samson, il devient à la merci de ses ennemis. Quand Dieu se retire de Samson, il perd la vision. Quand Dieu se retire de Samson, il va mourir de façon prématurée. Pourquoi? Parce qu'il est sorti des limites. Il n'aurait pas dû s'attacher à Dalila, il n'aurait pas dû enfreindre ce que Dieu avait dit sur sa vie. Et aujourd'hui, nous allons voir encore trois autres choses. Nous allons lire donc la parole de Dieu dans Daniel 4, 28 à 32. Nous allons voir trois autres choses. C'est important pour nous de comprendre ce que nous sommes en train de partager. Parce que Dieu est un Dieu qui fixe des limites. Deutéronome, plutôt Daniel 4, verset 28. Alors, Daniel 4, verset 28, c'est une histoire qui est riche en enseignements. L'histoire du roi de Babylone appelé Nebuchadnezzar, qui justement n'avait pas compris qu'avec Dieu, là, il y a des limites. Hein. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, là, il faut savoir qu'il y a des limites. Dieu ne nous bénit pas pour que par la bénédiction, nous puissions braver Dieu. Dieu ne nous donne pas des dons, des ministères, pour qu'à travers ces dons et ces ministères, on prenne la place de Dieu. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur a appelé Moïse, il lui a dit « Je te ferai Dieu devant Pharaon ». Mais il n'a pas dit à Moïse « Je te ferai Dieu devant le peuple d'Israël ». Donc aujourd'hui, quand on confond ce que Dieu attend de nous, les places que Dieu nous donne, ça nous crée des problèmes. Moïse n'était pas Dieu pour le peuple d'Israël. Moïse était Dieu devant Pharaon. Les choses étaient claires. Dieu a dit « Je te ferai Dieu devant Pharaon », pas devant les enfants d'Israël. Donc il ne devait pas être adoré par le peuple. Pour le peuple, c'était le berger. C'est lui qui devait les conduire. Mais pour les Égyptiens, devant Pharaon, il faisait office de Dieu. Mais c'était pour une période. Ce n'était pas d'éternité en éternité, on commence à adorer le Dieu Moïse. Non. C'était pour une circonstance bien précise. Daniel chapitre 4, verset 28, nous lisons la parole de notre Seigneur. Voici, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici, Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme des bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Nebuchadnezzar avait oublié que c'est Dieu qui l'avait placé, que Babylone était le jugement de Dieu pour les enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël ont péché et se sont écartés de Dieu, Dieu va envoyer un jugement à travers le royaume de Babylone. Il fait venir Nebuchadnezzar là pour pouvoir accomplir le jugement de Dieu. C'est Dieu qui donne la capacité au roi de Babylone de pouvoir régner et de dominer. Ça venait de Dieu. Et Nebuchadnezzar avait oublié. Parce que là, quand Nebuchadnezzar, il parle, ce n'est pas un prophète de Dieu hein, qui est venu lui dire, voilà ce que tu dois dire. Hein. Vous voyez la prière qu'il fait. Donc, ça veut dire qu'il prend conscience. Mais il y a un Dieu dans les cieux hein, et qui abaisse qui il veut et qui installe qui il veut. Mais pendant qu'il était dans sa gloire, il avait oublié Dieu. Donc, la quatrième des choses, j'ai dit que lorsque nous oublions de reconnaître notre source, notre histoire, lorsque tu es ingrat, lorsqu'il y a un manque de reconnaissance de là où Dieu t'a pris là, quand tu t'appropries la grâce de Dieu, tu ne rendras pas grâce à celui qui t'a fait grâce. Quand tu penses que la grâce est un mérite, que c'est à cause de tes œuvres, tu ne lui rendras pas la gloire qu'il faut. Or, lorsque tu voles la gloire de Dieu, tu cherches les problèmes à Dieu. Parce que je vous ai dit la dernière fois, lorsque Dieu nous fait grâce, c'est pour que nous puissions bâtir un autel d'action de grâce. Dieu ne peut pas nous demander des actions de grâce si au préalable il ne fait pas grâce. Les actions de grâce sont le résultat de la grâce. Donc, lorsque tu ne rends pas gloire à Dieu, tu vas avoir des problèmes. Souvenez-vous des 10 lépreux. Jésus les a renvoyés pour qu'ils aillent se montrer au sacrificateur. Ils étaient 10, ils sont partis. Hein. Mais lorsque le lépreux là est revenu vers Jésus après avoir constaté qu'il était guéri, Jésus lui pose la question, où sont les autres? Jésus leur a pas dit, quand vous allez partir et quand vous allez constater que vous êtes guéri, revenez me voir. Jésus leur a dit, allez-y. Mais lorsqu'il est revenu, Jésus pose la question, où sont les autres? Et pour lui, il va dire que non seulement il a été guéri, mais en même temps il a été donc pardonné de ses péchés, il a été sauvé. Pourquoi? Parce que justement, il faut que cela doit venir de nous-mêmes. Il faut que nous prenions conscience de notre source. C'est comme j'aime bien cette illustration, quand quelqu'un te fait du bien, le merci ne s'oblige pas. Lorsque tu es dans une difficulté et que quelqu'un te rende service, naturellement tu dis à cette personne merci. Parce que si tu ne dis pas merci, parce que cette personne ne va jamais t'obliger à lui dire merci. Mais non, le problème c'est que si tu ne dis pas merci lorsqu'on te fait du bien, tu vas avoir un problème de conscience. Donc quelque part sur le plan moral, on se rend compte que le fait d'être ingrat face à un bienfait, ça va nous créer des problèmes, à nous-mêmes d'abord. Et l'autre personne qui t'a pas demandé le merci, elle va se dire, mais dis donc, ben, il est culotté. Hein. Le merci, frères et sœurs, est quelque chose qui doit être naturellement la réponse à un bienfait. On ne peut pas te faire du bien et tu restes là indifférent, tu dis même pas à la personne, bon, merci de votre aide, c'est pas possible. Tu marches dans la rue, tu trébuches, tu tombes quelque part, des personnes viennent te relever et tu t'en vas comme ça, tu leur dis même pas merci. Non, c'est que toi tu as un problème. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu veut nous amener à comprendre, il faut que nous apprenions à reconnaître l'Éternel dans toutes nos voies. Reconnaître que la source de ce que j'ai, de ce que je suis, ça vient de Dieu. Et lorsque tu reconnais que ta source vient de Dieu, naturellement tu vas dire merci Seigneur. Lorsque tu reconnais que ta source vient de Dieu, tu ne vas pas dire moi, parce que tu sais que c'est Dieu qui a donné. Nebuchadnezzar avait oublié que c'était Dieu qui avait donné. Lorsque nous manquons de gratitude à l'égard de Dieu et que nous nous approprions la grâce de Dieu, nous allons être écartés. Parce que nous allons rentrer dans l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. On va penser qu'on se suffit. On va penser qu'on est parvenu. On va penser qu'on est quelque chose. Alors que ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Ce que nous possédons, c'est la grâce de Dieu. Si la grâce s'arrête, nous aussi c'est terminé. Et lorsque nous comprenons que c'est la grâce de Dieu, frères et sœurs, on ne va pas jouer avec cela. Donc, il faut être reconnaissant de ce que Dieu fait, savoir reconnaître la source de nos ressources. C'est important. Savoir reconnaître la source de nos ressources Et c'est à tous les niveaux, par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu possèdes, ce que tu es et ce que tu as. Ça vient de Dieu. Cinquième vérité, nous allons découvrir cela dans 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, nous découvrons une autre vérité sur les choses qui peuvent nous faire sortir des limites de Dieu. Dieu est un Dieu de gloire, nous devons lui rendre la gloire. Et comme Nebuchadnezzar n'a pas rendu gloire à Dieu, ben il a eu des problèmes. 1 Samuel chapitre 13, verset 8. Très belle histoire également, mais riche en enseignements. 1 Samuel 13, verset 8 déclare ceci, on parle de Saül. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersa loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, mais qu'as-tu fait? Saül répondit, mais lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je descendrai, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Ben, ici, nous sommes face à l'impatience de Saül. Samuel, le prophète qui était en même temps sacrificateur, n'était pas là. Il n'est pas venu au moment qu'il fallait. Alors, qu'est-ce que Saül il va faire dans cette impatience? Il va accomplir un office qui n'était pas destiné à lui. Il était roi, il n'était pas sacrificateur. Saül n'était pas destiné à faire le sacrifice d'Holocauste. Ce n'était pas lui de le faire. Mais comme dans l'impatience, c'est pourquoi, frères et sœurs, l'impatience-là nous pousse souvent à aider Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Saül s'est dit, mais on n'a pas imploré, invoqué Dieu. Les Philistins sont là, le peuple va se disperser. Il faut vite que j'aille donner l'offrande, le sacrifice à Dieu. On ne l'a pas encore fait, mais ce n'était pas à lui de le faire. Il a fait une action qui était bonne. Pourtant, mais qui ne correspondait pas aux exigences de Dieu parce que Saül n'était pas sacrificateur, il n'était pas prophète. Il y avait quelqu'un à cette époque-là qui avait reçu un mandat de Dieu de faire les holocaustes, les sacrifices, c'était Samuel. Samuel n'était pas encore mort. Voilà pourquoi lorsque il vient faire son holocauste, son sacrifice, Samuel arrive, il dit, mais qu'as-tu fait? Parce que ce n'était pas son travail. Tu sors des limites de Dieu, toi tu es roi, tu n'es pas sacrificateur. Reste dans les limites parce que donc, à cause de ça, vous vous rendez compte, à cause de ça, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, Dieu s'est choisi quelqu'un d'autre. L'impatience de Saraï a donné naissance à Ismaël. Parce que dans l'impatience de Saraï, elle a voulu aider Dieu pour accomplir son plan. Mais aujourd'hui, Ismaël est une épine dans toutes les nations. Israël, qui est le père des Arabes et tout, vous voyez tout ce qu'ils font. Et Dieu lui-même, il avait dit. Il sera comme un âne sauvage. Tout le monde sera contre lui. La parole de Dieu est vraie. Mais à cause de qui? À cause de l'impatience de Sarah. Dieu a dit, il va donner un enfant. Il n'a pas dit, à Abraham et à Sarah de réfléchir comment avoir un enfant. Dieu a dit moi-même là, c'est moi qui vais donner. Dieu a dit, c'est pas chercher vos méthodes pour aider Dieu. L'impatience nous fait sortir souvent des limites de Dieu. Parce qu'on ne sait pas attendre. Et dans l'impatience, c'est là où le diable il arrive, avec plein de pensées. Voilà. Mais comment fait Dieu, il va comprendre. Tu vois pas que le temps est passé, c'est ça l'histoire de Saül. Il se rend compte que le temps est passé. Samuel ne pointe pas à l'horizon. Il s'est dit, mais là, là, les ennemis sont là, il faut vite qu'on ait donné l'offrande à Dieu parce que, mais même si Samuel n'était pas encore arrivé, il aurait dû attendre, c'était pas son travail. Voilà, lorsqu'il se permet de faire quelque chose qui n'était pas à lui, même si c'était pour Dieu, il est mort. Dieu l'a rejeté, ça me fait penser à Uza. Uza a voulu aider. Et il est mort parce que ce n'était pas à lui de le faire. Et même dans l'histoire d'Uza, quand je reste un peu tranquille, je me suis dit, mais Seigneur, Dieu va tuer Uza, mais les vaches là, Dieu ne va pas les tuer. Parce que l'arche de l'alliance ne devait pas être transportée par des animaux, c'était par des hommes qui devaient porter l'arche. Mais quand on met l'arche sur les animaux là, ces animaux là, Dieu ne les tue pas. Hein. C'est les animaux qui transportaient l'arche, ce n'était pas des hommes. Et ces animaux là qui transportaient l'arche, Dieu ne les tue pas. Mais quand Uza vient toucher l'arche, Dieu va le tuer. Il est sorti des limites. Hein. Les animaux n'avaient pas la connaissance de la loi de Dieu. Les hommes avaient la connaissance. Dieu a parlé aux hommes. Uza était un fils d'Israël. Ceux qui étaient consacrés à ce travail étaient les fils de Lévi, la famille de Kehat. Mais non, de la famille de Kehat, là, Uza n'était pas de cette famille-là, des Lévites. Et quand il a touché là, il est mort parce qu'il n'était pas dans les limites de Dieu, il n'est pas resté à sa place. Parce qu'en vérité, même si l'arche tombait, vous pensez que c'est Dieu qui allait tomber. L'arche n'était qu'un symbole. Vous pensez que Dieu était dans l'arche? N'aidons pas Dieu, hein. N'aidons pas Dieu. Parce que quelquefois, on peut avoir toute la bonne volonté du monde, hein. Parce qu'on dit on fait ça pour Dieu. Mais on peut faire plein de choses pour Dieu, mais si ça ne cadre pas avec ce que Dieu nous a demandé de faire, frères et sœurs, il n'y aura pas son approbation. Rien. Amen. Et après, on va être frustré, dire, pourtant j'ai fait ça pour l'œuvre de Dieu. Tu as fait ça pour l'œuvre de Dieu, mais est-ce que Dieu t'a demandé de le faire? Parce que c'est deux choses, hein, de faire des choses pour Dieu et de faire ce que Dieu te demande de faire. On veut faire plaisir à Dieu, mais est-ce que Dieu veut que tu fasses ça? Et nous sommes tombés dans cette génération, dans ce piège-là, à faire beaucoup de choses pour Dieu. Amen. Mais est-ce que ce que nous faisons, Dieu nous a demandé de faire, combien même nous serions animés de bonnes motivations? Non, ça je veux le faire pour la gloire de Dieu. Mais est-ce que tu es sûr que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Est-ce que c'est ce qu'il veut? Marthe, elle a voulu servir, c'était pour la gloire de Jésus, elle a voulu honorer Jésus. Vous pensez que lorsque Marthe se démenait là, c'était pas pour elle, elle a voulu honorer Jésus. Elle a commencé à courir à droite et à gauche, mais c'est pas ce que Jésus voulait.
Amen, amen.
Non, on peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? On va sortir des limites, hein. Pourtant, après on va être frustré. Mais pourtant c'était pour Dieu, je me suis sacrifié, je me suis engagé, c'était pour l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que Dieu t'a demandé de faire ça? L'impatience de Saül lui a coûté le trône. Ce qui fait que dans le chapitre 15 qui va suivre dans le même livre de Samuel, avec la désobéissance face aux Amalécites, Saül déjà avait été disqualifié. Déjà avec les Philistins, là, Dieu a dit que Dieu a déjà choisi quelqu'un d'autre. Dans le chapitre 15, là où on a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, ça vient après. Mais Saül était déjà disqualifié. Ça a commencé là. Il n'était pas à sa place. Quand tu n'es pas là où Dieu t'a donné rendez-vous, mais quand même là où Dieu ne t'a pas donné rendez-vous, tu fais des choses pour Dieu, Dieu ne va pas agréer. Même si tu fais des choses pour Dieu. Mais si tu n'es pas à la place que Dieu t'a destinée, même si tu te démènes pour dire ça, c'est pour la gloire de Dieu, mais tu n'es pas à la place qu'il faut. L'impatience, frères et sœurs, nous fera sortir des limites. Et enfin, nous allons terminer par une autre histoire qui est dans deux choses dans le livre de Rois. Alors, on va dans 1 Roi, chapitre 13 pour comprendre encore les choses qui peuvent nous faire sortir des limites de Dieu. 1 Roi chapitre 13, le verset 6. C'est une histoire également qui est riche en enseignements pour que nous puissions être interpellés que le Dieu que nous prions est vraiment dans les principes. 1 Roi chapitre 13, le verset 6. Je vais lire sa parole. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, verset 9, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu serais allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu. L'histoire, elle est un peu longue, mais on va aller directement au verset 14. Au verset 14, la parole de Dieu déclare ceci. Et il alla après l'homme de Dieu. Ça, c'est le vieux prophète. Après que ses fils lui ont dit qu'il y avait un jeune prophète là-bas qui n'a pas voulu se corrompre avec le roi et tout ça là. Et il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Oh, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Et après avoir dit qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau, point, la Bible dit quoi? Il lui montait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea le pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Ça, c'est encore le mystère de Dieu, c'est terrible. Hein? Celui qui a menti là, celui qui a détourné, mais Dieu passe encore par lui pour parler à l'autre. C'est fort, hein, les choses de Dieu là. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui avait ramené et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle. Vous voyez ce que Dieu lui reproche. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'était à côté du cadavre. Frères et sœurs, le lion n'a pas mangé l'âne. Le lion n'a pas mangé l'âne. Le lion a tué. Mais là encore, le lion a juste tué le prophète, mais ne l'a pas mangé. Mystère de Dieu, frères et sœurs.
Son cadavre était étendu sur le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tient à côté du cadavre. Le lion se tient à côté du cadavre. Qu'est-ce que Dieu a reproché à ce prophète-là? Verset 21, il dit à ce prophète-là, « Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, » ça c'est ce que Dieu lui dit, « et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. » La désobéissance à la parole de Dieu nous fera sortir des limites, hein. C'est clair. Quand tu désobéis, tu sors. Le prophète n'a pas gardé la parole. Pourtant, l'apôtre Paul, des siècles après, va pourtant dire une chose importante. Il dit que même si un ange du ciel descendait avec un autre évangile, qu'il soit anathème.
Amen.
Alors, le vieux prophète a dit qu'un ange lui a parlé, qu'il a détourné. Entre temps, le premier, il était prophète de l'Éternel parce que Dieu lui parlait. Il est venu parler à Jéroboam et Dieu a agi à travers lui. Dieu parlait avec lui, c'était un prophète. À l'époque, Dieu, quand il parlait aux prophètes, il ne parlait pas par des intermédiaires, il leur parlait comme ça. Ce prophète-là, Dieu lui avait parlé. C'est pourquoi Dieu lui dit tu as été rebelle. C'est Dieu lui-même qui a dit tu es rebelle. Dieu n'a même pas dit oh non, il t'a trompé, il t'a menti. Non, Dieu a dit tu as été rebelle. On peut même trouver que Dieu était dur. Mais pourtant, ça veut dire que c'était un prophète comme lui qui avait une certaine expérience. Il dit, tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Vous voyez, le diable est persévérant lorsqu'il veut nous déstabiliser, hein. Il est d'abord passé par le roi qui lui a proposé, il a résisté. Hein. Avec le roi, il a résisté, c'était bien. Mais un peu plus tard, avec le vieux là, c'est le même truc hein, qui revient, la même tentation. Non, reste, viens manger. Et là, il baisse la garde. Et en baissant la garde, c'est à travers le mensonge. C'est là qu'on revient sur le mensonge du départ, le mensonge. Si nous croyons au mensonge du diable, ça va nous faire sortir. Le jeune prophète a cru au mensonge. Il a cru. C'est pourquoi même aujourd'hui, frères et sœurs, quels que soient les ministères et l'onction, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. C'est pas parce que quelqu'un vient avec un titre de prophète, Dieu m'a dit, ceci, ça, sur ta vie, tu dois dire Amen comme ça, n'importe comment. Non! La Bible dit examinez. La Bible nous demande d'éprouver les esprits, n'ayez pas foi à tout esprit. Lui, il était prophète. L'autre lui a dit, mais non, un ange m'a dit, il ne faut pas qu'il aille. Mais il aurait dit éprouver, il aurait dit examiner la prophétie de l'autre. Certainement, c'est à cause de ça que le Seigneur lui a fait des reproches. On te donne un message, mais toi-même, tu avais reçu une parole directe de Dieu. Mais comment tu t'es détourné si facilement? Parce que c'était au nom de Dieu. Combien ont été détournés au nom de Dieu aujourd'hui? Combien de ministères ont détourné des gens au nom de Dieu? Il a dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. C'est de votre responsabilité d'examiner la prophétie. Mais comment vous allez examiner la prophétie si vous ne connaissez pas la parole de Dieu qui est le fondement? Comment vous saurez que cette prophétie est fausse? Comment vous saurez que cette prophétie ne cadre pas avec le caractère de Dieu? Comment vous saurez si vous ne lisez pas la Bible? C'est ça la norme qui va vous permettre de discerner que non, là c'est faux. Connaissant Dieu, quand je lis ma Bible, ça ne correspond pas avec la nature et le caractère de Dieu. Mais les gens ils disent Amen à n'importe quoi. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré cela. Et on dit Amen. C'est comme ça, nous-mêmes serons responsables d'accepter tous ces mensonges-là. Il a accepté. Et ça l'a amené à la désobéissance. Et la désobéissance et le manque d'intégrité dans la parole de Dieu lui a coûté la vie. Lui a coûté la vie, hein, frères et sœurs. C'est pourquoi nous avons intérêt. Quand Dieu a parlé là, quand tu es sûr que Dieu t'a parlé, que c'est la parole de Dieu que tu as reçue là, il faut garder cette parole. Hein. Il ne faut pas la laisser tomber à terre. Dès l'instant où Dieu t'a parlé, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, c'est sa parole pour toi. Tu gardes la parole, tu ne la laisses pas tomber à terre. Parce que si tu laisses tomber à terre cette parole qui venait de Dieu, tu étais convaincu qu'elle venait de Dieu, si tu la laisses tomber à terre, tu auras des problèmes. Parce que Dieu va te dire, la Bible dit quoi, on demandera plus à celui qui a beaucoup reçu. Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Quand tu es ignorant, il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant où tu as la connaissance, quand tu sais, mais que tu ne fais pas, tu vas avoir des problèmes. Parce que quand tu ne fais pas là, tu vas sortir du cadre de Dieu. Je vous avais dit que le cadre de Dieu, c'est sa parole d'abord. Et bien sûr, on va voir, pour terminer, sur l'alliance. Parce que tout est là. Nous sommes gardés par la parole de Dieu. Et nous marchons selon la parole de Dieu. Si nous marchons en dehors de la parole de Dieu, Dieu ne sera pas avec nous. La désobéissance à la parole de Dieu va nous coûter cher. Et on va terminer par 2 Rois 17, 15. 2 Rois 17, 15. 2 Rois 17, 15. Voilà. 2 Rois 17, 15. Je vais même lire à partir du verset 13. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point. Et ils raidirent leurs coups comme leur père, qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant, et ne furent eux-mêmes que néant. Et après les nations qui les entouraient, et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent deux veaux en métal fondu, ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Aussi, l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël? Et les a-t-il éloignés de sa face? Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Mais Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu. Et il avait suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards. Et il a fini par les chasser loin de sa face. Amen. Voilà un peuple qui s'est comporté comme s'il n'avait pas une histoire. Ça y est que quand vous lisez ça, c'est étonnant de voir comment facilement l'homme peut abandonner Dieu. Et se comporter comme si Dieu n'avait jamais existé pour lui. Comme si Dieu n'avait jamais fait pour lui. Parce que arriver à un niveau d'abomination et de profanation que Israël avait atteint, c'est aberrant. Jusqu'à adorer les Astarté, oublions le Dieu de Moïse, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu qui n'a pas de visage, le Dieu invisible mais qui agit dans le visible. Ils ont oublié. C'est-à-dire que la manière dont le Seigneur énumère, hein, on dit qu'ils abandonnèrent les commandements de Dieu. Ils sont rentrés dans les pratiques des peuples qui les entouraient. Quand ça fait des sacrifices d'enfants, ils ont commencé à adorer des idoles. Mais ce peuple-là avait oublié son histoire ou bien? Lorsque nous ne sommes plus fidèles justement à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, à l'alliance de Dieu. Mais une alliance, pour être fidèle, il faut en comprendre les enjeux et les différentes clauses. L'alliance que Dieu avait faite avec Israël, ils ont violé cette alliance-là. Déjà, à commencer par le premier commandement qui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, des idoles et tout ça. Ils ont violé le premier commandement. C'était une trahison. C'est quand même le premier commandement, hein. C'est pourquoi chaque fois que Israël, Juda, ils sont détournés, ils sont allés vers les idoles, là, le Seigneur n'a pas joué avec la punition, hein. C'était sérieux. Parce que lorsque vous adorez d'autres idoles, vous lui faites comprendre qu'en dehors de toi, il y en a d'autres aussi. Vous voulez le comparer, Dieu n'est pas comparable, il est Dieu. Tous ceux qui prétendent être de Dieu ne sont que des menteurs, parce que lui, il n'y a qu'un seul créateur, et tout le reste ne sont que des créatures. Même le diable n'est qu'une créature. Alors, adorer une autre divinité que lui, c'est un affront, c'est blessant, entre guillemets. Comment? Comment tu vas adorer un autre Dieu? Donc, vous reconnaissez qu'en dehors de l'Éternel, il y a d'autres dieux, non? Et ça ne passe pas. Dieu les a livrés. Le jugement de Babylone et de la Syrie sur le royaume de Juda et sur le royaume d'Israël, c'est à cause de ces abominations-là, Dieu les a livrés. Parce que le peuple s'était prostitué à un degré ou même c'était trop fort. Lisez le livre des prophètes, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Une telle prostitution spirituelle, Dieu a dit, non, je les livre. Je termine avec eux parce que c'est pas possible. Il dit, je termine avec eux. Pourquoi? Parce qu'on a violé l'alliance. On est rentré dans l'infidélité. Et ça, Dieu ne supporte pas. C'est pourquoi il dit qu'il faut garder les commandements de Dieu. Sortir des limites de Dieu lorsque nous ne gardons plus ses commandements. Et lorsque nous violons l'alliance de Dieu. Parce qu'il ne faut pas que vous oubliez que en Christ, là, vous marchez avec un Dieu, mais il y a une alliance qui vous lie avec Dieu. Hein? Nous sommes actuellement dans une alliance. Et cette alliance-là, il ne faut pas violer les clauses. Dans toute alliance, comme dans tout mariage, la première clause, c'est la fidélité. Hein? On ne se marie pas pour divorcer demain, ni pour aller courir à droite et à gauche. Hein? Première des choses qu'on attend d'une alliance, même d'un contrat, c'est la fidélité aux clauses. Et donc avec Dieu là, Dieu il attend de nous la fidélité à sa parole. L'observation de sa parole. Et lorsque nous sommes infidèles à la parole de Dieu, nous avons violé l'alliance. Et chaque violation de l'alliance va nous coûter. C'est pourquoi cherchons à garder sa parole et implorons la grâce de Dieu pour demeurer. Parce que les infidélités, frères et sœurs, ne sont pas tolérées par Dieu. Mais comme il est le Dieu amour, il dit quoi? Malgré vos infidélités, lui reste fidèle. Pourquoi? Mais comme Israël, nous avons une prédisposition, si on ne garde pas la parole de Dieu là, à nous éloigner. Remarquez même au temps des juges. Remarquez le cycle pour les lecteurs de la Bible. Le cycle qui a autant de juges. Le peuple de Dieu se prostitue. Dieu les livre. Le peuple de Dieu se répand. Dieu les délivre. Le peuple de Dieu se reprostitue. Dieu les livre. Le peuple se répand. Dieu les restaure. Malgré tout ce que Dieu fait, c'est-à-dire que le cœur de l'homme, c'est vrai, il est mauvais. Regardez les miracles qu'il a fait en Égypte. Mais ça devait suffire pour que le peuple craigne Dieu et marche avec Dieu. Non. Malgré le miracle des 10 plaies, malgré la mer rouge qui s'est ouverte en deux, malgré la colonne de feu et de nuée, malgré la manne, le peuple a toujours été têtu et rebelle. Malgré qu'il vivait dans le surnaturel au quotidien, le peuple n'a pas craint Dieu jusqu'au bout. Comment vous expliquez ça? Malgré qu'ils étaient dans l'environnement du surnaturel, hein, Dieu agissait. Dieu parlait par Moïse. Ils ont vu comment la montagne a été enfumée. Ils ont vu comment il y a des éclairs. Ils ont vu ça, Israël. Mais ça n'a pas empêché le peuple de continuer à murmurer, de continuer à remettre Dieu en question. C'est pourquoi il dit, mais c'est un peuple au cou roide. Ils sont têtus, mais à quel degré? Si ceci passe avec Israël, c'est pas avec nous aujourd'hui, là. On est tous exposés, hein. Eux, ils ont vu. Peut-être que ce que eux ils ont vu, toi et moi, là, on n'a jamais vu ça. Hein? Je dis bien, c'est un peuple qui a vécu en permanence dans un environnement du surnaturel. Parce que que le simple fait d'être conduit par une colonne de nuée, c'est un phénomène surnaturel. Pendant toutes ces années, c'est une colonne de nuée et de feu qui vous conduit. C'est un phénomène surnaturel. Vous êtes avec le surnaturel en permanence, mais ce surnaturel en permanence ne vous amène pas à craindre Dieu. Comment vous expliquez ça? C'est là qu'on comprend qu'on peut bien faire des miracles et tout ça là, mais ce n'est pas le miracle qui amène quelqu'un à vraiment avoir un cœur pour Dieu. Hein? Si ce n'était que ça là, les enfants d'Israël seraient un vrai peuple d'adorateurs, ils n'allaient pas mourir dans le désert. Ils seraient tous rentrés à Canaan. Mais pourquoi ils ne sont pas rentrés? Le cœur là, le cœur, nous oublions vite. Mais comme Dieu aussi, il est patient. Mais nous oublions vite, hein. Nous oublions vite, frères et sœurs. Vite, nous brisons les alliances avec Dieu. Très vite, hein, on rompt nos alliances. Mais jusqu'à quand? Sachez une chose, nous tous, et moi-même qui vous parle, quand la grâce ne sera plus là, il y aura... ça veut dire que ça sera fini. Hein? Là, nous jouons avec Dieu, on se répand, pardonne-nous. Mais il a fixé un temps, hein? C'est pour un temps. Hein? Le monde, nous vivons ce qu'on appelle le temps de la patience de Dieu. Mais le temps de la patience de Dieu ne sera pas éternel. Hein? Nous sommes dans une période qu'on appelle le temps de la patience. Dieu est patient. Donc si pendant le temps de la patience de Dieu, on ne se répond pas sérieusement, on ne met pas en règle correctement notre vie, quand ce temps-là va passer, il va passer. Parce que quand il va revenir là, il ne viendra pas avec la grâce. Hein. Quand il y reviendra, c'est pour juger. C'est le juge qui reviendra. C'est pas, oh Jésus qui a fait grâce, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Attention, quand il revient, il vient pour juger. Sur la base de quoi? Sur la base de la fidélité à la parole. Sur la base de la fidélité aux instructions qu'il nous aurait données, aux instructions qu'il aurait données à chacun de nous. Les paroles que vous aurez reçues. Qu'avez-vous fait de la parole de Dieu? Il va revenir juger. La grâce, l'agneau de Dieu, il a été immolé. Il est là, sur le trône. Mais Jésus reviendra. Et ça ne sera pas la rigolade. Donc, nous sommes dans un temps qui est bon. Parce qu'on vit le temps de la patience de Dieu, le temps de la grâce de Dieu. Mais ne jouons pas avec la grâce. Parce que les enfants d'Israël ont joué avec Dieu. Hein. Ils ont vu, mais comment on peut expliquer? Ils ont vu comment la terre s'est ouverte en deux là. Les gens ont été enterrés vivants. Mais attends, tu vois un truc comme ça, ça doit te traumatiser, je sais pas moi. Ça doit traumatiser, tu vois un truc. Des gens sont enterrés vivants, la terre s'ouvre comme ça, ils sont enterrés vivants. Mais comment ne pas être traumatisé et même le servir, vaut mieux le servir avec crainte et la peur même. Même la peur de Dieu là, il n'y en avait plus. Vous voyez jusqu'où notre cœur là peut nous amener. Même si encore à la rigueur on se dit bon, peut-être qu'ils vont pas servir Dieu avec amour, mais la peur là, on peut quand même les aider à rester droit. Même la peur là, avec tout ce qu'ils ont vu, il n'y avait pas ça. Mais comment ils avaient un problème? Comment ils étaient ce peuple là? Mais nous aussi on vit la même chose. Aujourd'hui aussi ça se fait, hein, avec tout ce que Dieu fait là, mais ça n'arrive même pas à nous discipliner. On joue. C'est là que vous vous rendez compte que cette affaire-là n'a pas commencé avec nous. Hein. Et avec eux encore, c'était pire. Donc quand nous lisons la Bible, on se dit, waouh, Dieu, il a fait beaucoup de choses. Hein. Mais ces choses-là, est-ce que les gens pouvaient comprendre que Dieu faisait tout ça? C'est pour les amener à davantage se consacrer à lui. Les miracles, les interventions surnaturelles, pourquoi Dieu, il a fait tout ça? Aujourd'hui, on joue. Jouer avec Dieu, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais pourtant, la Bible dit quoi? Ce qui est écrit doit servir à notre instruction. On ne doit pas répéter l'histoire. C'est bête de répéter l'histoire alors qu'on a vu ce qui s'est passé. Pourquoi on va répéter l'histoire alors qu'on sait ce qui arrive quand on désobéit à Dieu? On sait comment Dieu peut se lever dans la vie de quelqu'un et te bloquer. Il te bloque partout. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tu es cerné de partout. Ça se fait encore aujourd'hui. Ces choses-là doivent nous instruire. Quand on ne joue pas avec Dieu, hein. Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est miséricorde, mais Dieu est juste également. Dieu veille à ce que sa parole soit exécutée. Il veille lui-même, il veille sur l'exécution de sa parole. Donc aujourd'hui, si nous ne prenons pas ces choses au sérieux, nous sortirons. Et si nous sortons, ben Dieu n'est plus avec nous. Et quand Dieu n'est plus avec nous, c'est fini. Le bras de fer avec Dieu n'est pas possible. C'est de la folie de faire du bras de fer avec Dieu. Comment on peut faire le bras de fer, toi tu es humain, lui il est divin. C'est de la... Vous voyez comment quelquefois on est comme des insensés. On veut faire le bras de fer avec le Créateur, alors que nous ne sommes que des créatures. Il est Dieu, nous sommes humains. Et on veut résister à Dieu comme si on était... Mais attendez un peu. Les enfants d'Israël ont joué avec le Seigneur. Et à travers leur comportement, leurs attitudes, ils sont sortis des sentiers de Dieu. C'est pourquoi j'insiste sur l'obéissance à la parole de Dieu. Quand tu as reçu une parole, une direction de Dieu et que tu ne fais pas, tu vas avoir des problèmes. Ça, je préfère vous le dire en vérité. Hein. Vous aurez des problèmes si vous avez reçu une parole de Dieu, une instruction, une recommandation, une orientation et que vous ne faites pas. Vous aurez des problèmes. Hein. Ah oui, vous aurez des problèmes. Parce que Dieu ne peut pas être favorable à ce moment-là, c'est pas possible. Quelquefois, nous voulons que Dieu nous parle, même par la voix prophétique. Mais les premières choses que Dieu nous a dites, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que les premières choses qu'on a cru recevoir de Dieu, est-ce qu'on a commencé à pratiquer ça? Je le dis et je persiste et je signe là-dessus, Dieu n'est pas bavard. Quand Dieu parle, c'est avec raison, avec un but, un objectif bien précis. Dieu n'est pas bavard. Parce qu'il est capable de faire un silence de 400 ans dans la vie d'un peuple. Mais il est toujours avec eux, mais il ne parle plus. Dieu n'est pas bavard, mais quand il a laissé sa parole, c'est cette parole-là, il faut s'accrocher à elle. Dieu n'est pas bavard. Ne pensez pas que Dieu soit bavard. Dieu n'est pas bavard. L'histoire nous l'a démontré et même notre vie chrétienne de tous les jours nous le demande. Dieu n'est pas bavard. C'est-à-dire qu'il ne parle pas juste pour parler. Quand Dieu décide de parler, il parle avec un but bien précis dans la vie des hommes. Il n'est pas bavard. Donc, la parole de Dieu, la parole écrite, ce n'est pas juste, c'est pas un journal intime où on raconte tout ce qui nous traverse l'esprit. Non, non. Ce qui est contenu là-dedans, ce sont des paroles sérieuses et bien précises. Avec un objectif bien précis. Ce qui est là-dedans, ce n'est pas juste du bavardage. Ce n'est pas du bavardage qui est là-dedans. Hein. Ce sont des paroles sérieuses pour notre avenir, pour notre développement en tant que chrétien. Donc ce n'est pas du bavardage. Dieu n'est pas bavard. Hein. Ne faisons pas de Dieu un bavard. Dieu n'est pas bavard. Quand il a déjà parlé, veillons déjà à voir dans notre vie. Est-ce qu'il y a des paroles que j'ai reçues de la part du Seigneur qui m'avaient demandé de faire certaines choses que je ne fais pas? Si tu n'as pas fait, vaut mieux continuer à faire. Parce que ne t'attends pas à ce qu'il te dira autre chose. Il ne va pas te dire autre chose. Ça, tu vas te rappeler ce que tu n'as pas encore fait. Mais il ne va pas te dire autre chose. Parce que ça sert à quoi de te donner beaucoup d'informations, beaucoup de choses à faire, alors que les premières choses, tu ne les fais pas. Ça sert à quoi il te demande beaucoup? Ça ne sert à rien. Dieu n'est pas désordonné. Dieu n'est pas un aventurier. Alors, on va s'incliner, on va prier le Seigneur qui nous aide tous à rester dans les limites de sa parole, de sa volonté, afin d'être préservé de ces choses-là que les autres ont subies, parce qu'il y va de notre développement. On ne joue pas avec Dieu et sa parole. Demeurons dans les limites de sa parole, de sa volonté. Seigneur, nous te prions ce matin et nous implorons encore ta grâce sur nos vies. Ta parole écrite nous révèle des hommes et des femmes qui ont expérimenté des choses avec toi, qui ont manifesté des comportements et des attitudes contraires à ta volonté. Et nous voyons à travers le livre ce qui est arrivé dans la vie d'Israël, de Judas, de toutes ces personnes-là qui te servaient, mais qui sont sorties, Seigneur Dieu, des limites de ta volonté par leur désobéissance, par leur infidélité. Seigneur, ces choses ont été écrites pour nous servir de leçon. pour être des repères pour nous, Seigneur. Je prie ce matin que nous ne perdons pas de vue ces repères qui sont dans ta parole, afin que nous ne puissions pas répéter, Seigneur, l'histoire, répéter l'histoire de Judas, répéter l'histoire d'Israël, répéter l'histoire de ce jeune prophète, répéter l'histoire de Nebuchadnezzar. Non, Seigneur, nous voulons tirer les leçons afin de les appliquer aujourd'hui, en notre temps, en notre époque, en notre génération, que nous sommes appelés à marcher dans l'intégrité, dans la fidélité, dans l'obéissance et la soumission à ta parole, à rester fidèles à l'alliance que nous avons Jésus-Christ. Une alliance de fidélité à ta parole, de fidélité. Tu as dit, si vous gardez mes paroles et que mes paroles demeurent en vous. Seigneur, il a dit encore ton serviteur Paul que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Seigneur, nous voulons être fidèles à ta parole. Nous voulons être fidèles à l'enseignement de ta parole. Et nous voulons, Seigneur Dieu, que cette même parole nous ouvre les yeux afin que nous puissions voir les dangers, tous les dangers qui vont nous faire sortir de tes limites. Seigneur, nous voulons rester toujours près de toi, rester près de ta parole, être, oui, Seigneur, comme Samuel qui ne laissait tomber à terre aucune parole de Dieu. Être comme Esdras, Seigneur, qui tremblait devant les paroles de la loi de l'Éternel. Seigneur, nous voulons avoir le cœur de ces hommes-là, et ne pas, Seigneur Dieu, te déconsidérer et ne pas avoir la révérence qui est due à ta personne divine. Tu es Dieu, et nous ne sommes que le produit de ta grâce. Alors que ton nom soit béni, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. J'aimerais que tu pries pour la personne qui est à côté de toi, tu lèves ta voix, pour ton voisin, ta voisine, pour cette semaine qui va commencer, que Dieu la fortifie, que Dieu l'aide justement à rester dans les limites cette semaine qui va commencer de la parole de Dieu. Que Dieu ouvre ses yeux à veiller, veiller, veiller à rester. Veillez à rester dans le cadre, veillez à rester sur le chemin, veillez à rester dans les voies de Dieu. Nous avons besoin de rester dans les voies du Seigneur afin de ne pas être rejetés, afin de ne pas vivre tant de souffrances à cause de la désobéissance. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je prie cette semaine que chacun de nous ici présents, tu nous gardes dans tes voies, tu nous gardes dans tes sentiers, que tu nous gardes fidèles, fidèles Seigneur, fidèles à toi, fidèles à ta parole.